La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble. Et oui, nous avons quitté le studio Lagardère et depuis trois jours, nous sommes en direct de Roland-Garros, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Et ici aussi, nous découvrons des entreprises, des associations qui font bouger la France dans le secteur du sport. On va en parler avec vous, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Roland-Garros bat son plein. C'est le poumon indispensable pour faire vivre tout le tennis français. Tiens, comment y arriver à l'heure de la pandémie? Comment va cette entreprise Roland-Garros? Notre invitée exceptionnelle jusqu'à 14h, la directrice générale de la Fédération française de tennis.
À la une, la terre battue, symbole même de Roland-Garros, mais il y a aussi des cours de tennis conçus pour éviter de se blesser, sur lesquels on peut jouer immédiatement, par exemple après la pluie. Eh bien, le patron de l'entreprise Supersol qui fait tout ça est notre invité d'ici quelques minutes.
Si vous aimez le tennis et si je vous dis Technifibre, vous vous dites tiens, ça me fait quand même penser à des bons moments sur les cours. Bah oui, la marque fait aussi bien des raquettes que des cordages. Elle appartient aujourd'hui à Lacoste et ce sera notre saga du jour vers 13h50.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu Bibi. Bibi, c'est une application qui permet de découvrir tous les événements, toutes les activités culturelles autour de nous. Ce projet va-t-il vous convaincre? Rendez-vous à 13h45.
Et puis, bah, il paraît qu'on est mercredi, donc c'est le jour de demain un emploi. 1500 postes aujourd'hui à pourvoir. Où ça? Allez, réponse vers 13h50.
Allez, c'est ça, la France bouge. Bienvenue, nous sommes ensemble et en direct de Roland-Garros jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, on a toujours cette chance extraordinaire d'être au pied du cours Philippe Châtrier, le principal cours de cette enceinte de Roland-Garros. Si vous nous cherchez, on est entre la porte C19 et la porte C22. Vous ne pouvez pas nous rater. On va parler justement aujourd'hui de cette entreprise Roland-Garros.
Bonjour Amélie Oudéa-Castéra.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous accueillir ici à Roland-Garros.
Parce avec plaisir.
Vous êtes la directrice générale de la Fédération française de tennis. Quel parcours, Amélie Oudéa-Castéra? Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, la Cour des comptes, vous êtes passé chez AXA, chez Carrefour et maintenant le tennis, la Fédération française de tennis. Mais ce n'est pas un hasard total, puisque vous retournez, on peut le dire, à vos premiers amours. Vous avez été une joueuse de tennis professionnelle. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes la directrice générale de la Fédération française de tennis. C'est cette fédération qui organise chaque année Roland-Garros. C'est une énorme machine qui génère en temps normal près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, au moment où nous parlons, les jauges sont encore très limitées, environ 5000 personnes en ce moment. Alors, Amélie Oudéa-Castéra, comment jugez-vous les premiers jours? Comment ça se passe en ce moment?
On est très heureux parce qu'en plus, la météo est avec nous. Donc, c'est le retour de la lumière, c'est le retour du jeu, c'est le retour du plaisir dans ce stade qui a été tout à fait métamorphosé, qui est beau, qui est grand, qui est spacieux. Donc, je crois que ça fait du bien à tout le monde.
C'est vrai, on est heureux d'être là.
On voit qu'il y a du sourire, on voit qu'on est finalement content de revenir un peu à la normale. Vous êtes un peu le premier événement sportif là, de ces derniers mois à ne pas être à la normale, mais à repartir. Justement, est-ce que vous arrivez à être rentable pour ce Roland-Garros 2021 en étant avec de toutes petites jauges?
Alors, difficile. D'ordinaire, ce tournoi génère à peu près un peu plus de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il est vraiment le poumon économique du tennis français qui nous permet derrière de reverser vers les territoires, vers les ligues, les comités, les clubs, et d'avoir cette solidarité, un modèle économique très vertueux. L'an dernier, vous en souvenez, avec la très petite jauge, 1000, on avait perdu 50% de notre chiffre d'affaires. Cette année, c'est un petit peu mieux, mais on sera quand même, grosso modo, à 40% seulement du chiffre d'affaires. Oui, donc, on a une perte de 110 millions d'euros et qui forcément se retrouve dans la rentabilité de l'événement.
Donc, aujourd'hui, vous êtes déficitaire parce qu'il faut aussi le dire, vos sources de revenus, c'est la billetterie, ce sont les sponsors. Là aussi, cette année, c'est plus compliqué. Vous venez de l'expliquer à cause des jauges, mais pour les sponsors, c'est aussi la même chose.
Oui, en fait, il faut avoir en tête qu'il y a à peu près 5 grandes sources de revenus pour un tournoi comme ça. Il y a d'abord le média, le sponsorship et les partenariats, qui sont finalement les deux postes qui tiennent le mieux, quel que soit le niveau de jauge, parce qu'il y a toujours une retransmission télévisée. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que l'an dernier, l'édition sacrifiée en termes de jauge, elle avait connu des très bons scores en termes d'audience.
Et cette année aussi, je crois que ça part très bien en termes d'audience.
Très bien. Donc le média tient bien, il y a cette résilience. Et puis la dimension partenariat sponsorship, il y a une partie qui est affectée, mais il y en a une autre qui est finalement non variable et qui ne dépend pas de la jauge. Et les trois postes qui sont le plus directement impactés par la jauge, c'est ce qu'on appelle les hospitalités, les loges qui sont en général financées, payées, dans lesquelles les entreprises investissent. Et puis après, il y a la billetterie du grand public. Et le dernier, c'est la griffe, la boutique, c'est-à-dire les ventes qui sont faites de marchandises sur le tournoi.
Justement, sur ces loges, vous êtes souvent critiqué à Roland-Garros parce qu'elles sont vides, souvent, au moment des matchs. Alors là, vous y êtes pour rien pour cette année.
Cette année, oui.
Comment on peut faire pour faire en sorte que ce tournoi populaire, où c'est très compliqué d'avoir des places, redevienne vraiment populaire?
Être astucieux sur les roulements à table. Faire en sorte que quand on est au cœur du spectacle, on puisse vraiment être sur le court. Et puis, c'est assez amusant parce qu'on a lancé récemment au sein de la direction générale un concours d'innovation dans lequel la proposition a été faite d'avoir une sorte de bourse digitale à l'intérieur du stade et qui pourrait permettre, pendant qu'il y a de temps en temps des loges vides, la faculté pour certains d'aller occuper ces loges. En tout cas, on réfléchit.
Donc pour l'année prochaine, pour la prochaine édition, il y aura peut-être ça.
On va essayer en tout cas de trouver une meilleure optimisation de l'utilisation de chacun de nos sièges.
Alors vous étiez en train de nous expliquer, Amélie Oudéa-Castéra, que c'était compliqué cette année et on ne le sait pas toujours, mais c'est Roland-Garros qui finance la vie du tennis amateur, qui soutient nos champions. Est-ce qu'eux aussi, de leur côté, il va falloir se serrer la ceinture?
Absolument. Si vous voulez, le tennis français, c'est à peu près 1 milliard d'euros de PIB. Et là-dedans, 400 millions sur le tennis amateur et 350 millions, un peu plus, sur le sport professionnel. Nos sportifs ont été impactés. Simplement, on a mis en place un ambitieux plan de soutien et de relance qui a permis à la fois d'aider les organisateurs de tournois, en dépit des difficultés sur la billetterie, de tenir leurs événements, et également un compartiment d'aide directe aux joueurs, mais aussi aux officiels, aux juges-arbitres, pour essayer de continuer à faire vivre cet écosystème et que la compétition soit le moins impactée possible.
Un Roland-Garros, c'est un peu différent des autres années, mais pourtant ça repart après 15 mois d'absence totale de compétition. Nous sommes ravis d'être avec vous, Amélie Oudéa-Castéra. Vous êtes la directrice générale de la Fédération française du tennis et vous restez avec nous, bien sûr.
Et au filet d'Europe 1, il est 13h18.
Europe 1.
Ils sont les leaders de la terre battue. Ce sont eux qui fournissent justement les terrains de Roland-Garros.
Oui, et ils innovent grâce à de nouveaux matériaux. Tiens, par exemple, pour faire de la terre battue artificielle. C'est quoi tout ça? Eh bien, on voit tout ça dans un instant. Elle bouge et elle a de la chance, cette France bouge. On est toujours dans les allées de Roland-Garros, dans ce studio Europe 1. On vous le rappelle, hein, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Il y a une seule radio pour tout savoir sur ce qui se passe ici à Roland-Garros, c'est la vôtre. C'est bien évidemment Europe 1. Et aujourd'hui, on est avec Amélie Oudéa-Castéra, qui est la directrice générale de la Fédération française de tennis, pour justement aller dans les coulisses de cette entreprise Roland-Garros.
Et justement, dans les coulisses de cette entreprise Roland-Garros, il y a une entreprise qui fournit toute la terre battue des terrains de Roland-Garros. Et c'est vous, Didier Durand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Supersol. Supersol, ce sont 2000 tonnes de terre battue par an. Vous êtes bien installé dans le paysage français puisque votre entreprise existe depuis 1948. Et les terrains, la terre battue de Roland-Garros, c'est vous. Comment elle se fabrique, cette terre battue?
Alors, cette terre battue est fabriquée dans notre usine. Elle vient de différentes briqueteries de la France. Et ensuite, selon les extractions qui sont faites pour la matière première, on compose cette terre battue qui est utilisée sur de nombreux cours français.
Mais est-ce qu'elle est particulière, cette terre battue? Est-ce que dans votre cahier des charges, on vous dit il faut qu'à Roland-Garros, elle soit comme ça, parce que c'est comme ça que les joueurs ont l'habitude de jouer à Roland-Garros? La particularité de la terre battue, hein, c'est que le jeu est beaucoup plus lent, ce qui permet la longueur des échanges ici.
Alors effectivement, aujourd'hui, on a un accord avec la Fédération pour avoir une terre battue qui est identique, qu'elle soit à Roland-Garros ou autre part. C'est toujours la même terre battue, c'est la même origine et c'est toujours la même composition. Il n'y a pas de différence.
Et il faut combien de temps pour préparer? Là, on a face à nous le cours Philippe Châtrier, l'un des plus beaux cours au monde, hein, bien évidemment, de terre battue. On s'y prend combien de temps à l'avance pour que la terre battue sur laquelle est en train de jouer l'un des meilleurs joueurs au monde, la Zverev, en ce moment même, soit bonne?
Alors aujourd'hui, ce sont les équipes techniques de la Fédération française qui entretiennent et créent les terrains. Nous fournissons uniquement la matière première.
Mais ça dure combien de temps un terrain de terre battue?
Alors, une terre battue dure environ une quinzaine d'années avec des entretiens réguliers, annuels, et surtout lors d'un tournoi qui sont des entretiens journaliers, bien sûr.
Alors, la majorité de vos clients, ce sont des tournois un peu pour les professionnels, mais vous vendez aussi à des particuliers. Je crois que 10% de votre activité s'adresse aux particuliers.
Particuliers, clubs, collectivités, voilà, on vend notre produit partout.
Et si on a voulu être avec vous aujourd'hui dans la France Douche, c'est parce que vous innovez. Vous avez inventé la terre battue artificielle. En tout cas, vous développez la terre battue artificielle. C'est quoi donc ?
Alors aujourd'hui, il est vrai qu'on a besoin, surtout dans les clubs, de pouvoir accueillir régulièrement et souvent les joueurs. Il a été mis au point un système de jeu sur terre battue, en terre battue artificielle, c'est-à-dire que d'une surface dure que l'on recouvre avec une moquette aiguïtée, et ensuite on vient incorporer pour le glissement et pour le jeu de la terre battue dessus. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la terre battue artificielle, pardon.
Et ça permet. Ça procure le même confort, parce que là, pour les puristes, on est en train de se dire quoi ? Il nous fout de la moquette sous la terre battue ?
Alors, au niveau du jeu, pour les joueurs, c'est 98% de la même surface qu'une terre battue traditionnelle. L'avantage, le grand avantage, c'est de pouvoir jouer toute l'année sur cette surface.
Alors, il y a la terre battue artificielle, mais il y a aussi une autre innovation qui nous a particulièrement intéressés, c'est que vous avez développé le béton poreux chez Supersol. C'est quoi ce béton poreux ? C'est pour éviter les blessures des joueurs ?
Alors, le béton poreux, c'est une surface dure qui nous permet uniquement de jouer toute l'année, qui n'a pas du tout de terre battue dessus, puisque c'est un béton peint et on va jouer dessus. L'avantage, c'est que 10 minutes après un orage, vous pouvez quand même jouer. Ce qui donne du temps de jeu pour les clubs et pouvoir surtout donner à tous les joueurs une possibilité de jouer tout le temps. Quoi.
Amélie Oudéa-Castera, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération française de tennis. La qualité de cette terre battue, c'est bien évidemment indispensable. Combien de temps il faut pour mettre en route cette enceinte de Roland-Garros ?
Qualité de terre battue exceptionnelle ici.
Vous n'allez pas nous dire
vraiment,
la mer.
On a l'impression que c'est une petite poudre et elle a cette couleur ocre. Qui est
et vous vous y connaissez, hein, parce que vous étiez une grande chanteuse, une grande joueuse.
J'ai la chance de vivre ça et de se retrouver cette poudre rouge sur les chaussettes de tennis. pas facile d'ailleurs à retirer à la machine à laver. Non, fabuleux. En fait, très tard, et moi c'est un truc d'ailleurs qui m'a surprise, on prépare ça mi-avril. C'est assez tard.
Et pourquoi c'est tard ? Pourquoi c'est
cette phase où la météo a tendance encore à ces moments-là à geler un petit peu les terrains. Et donc c'est complètement impossible de préparer les terrains si on n'est pas dans un climat c'est stabilisé sur ce plan-là.
Vous le disiez, c'est une enceinte extraordinaire, 12 hectares. Ça sert à quoi quand il n'y a pas le tennis ?
12 hectares, c'est 8 stades de France. On ne se le dit pas assez. C'est gigantesque, en fait.
Mais ça sert à quoi quand il n'y a pas de tennis ? Ça ne pourrait pas servir un petit peu plus ?
C'est une très bonne question.
On essaye de temps en temps avec Elisabeth d'en poser quelques-unes. Quand même.
Aujourd'hui, elle n'est utilisée, cette surface, que 3 semaines par an, ce qu'on trouve évidemment, nous, bien dommage. Et donc, on mène un double projet avec notre président Gilles Moreton. Le premier, c'est d'abord de faire revenir dans le stade des compétitions de jeunes, les championnats de France, ou de 4e, 3e, 2e série, le fameux critérium qui est préparatoire à la première série, pour qu'il y ait beaucoup plus de vie dans ce stade, y compris en termes de compétition amateur.
Donc des compétitions amateurs,
deuxième élément,
un petit volet business quand même.
Et le deuxième élément, c'est justement d'ouvrir le stade à d'autres types d'acteurs très diversifiés. En effet, des entreprises qui pourraient venir ici faire leur séminaire. On est en train de finaliser la construction d'un auditorium, par exemple. On imaginera des formules qui sont bien, mais également des groupes scolaires. En partenariat avec la mairie de Paris, on organise des visites guidées de notre stade. Et puis, on aura la volonté d'y accueillir des événements, pas seulement les Jeux Olympiques le jour où, mais aussi des événements comme, par exemple, la fête de la musique qui aura lieu ici le 21 juin.
Mais plus largement.
Et d'autres types d'événements, y compris multisports.
C'est ça, parce que vous avez un toit maintenant sur le cours Philippe Chatrier, vous pourriez très bien avoir un concert ici. Il y a 15 000 places dans cette salle.
Un concert, un combat de boxe. Enfin,
c'est dans vos plans, ça ?
C'est notre plan d'avoir un projet qui s'appelle le Stade à l'année et qui vise, toujours dans le respect de la primauté du sportif, j'insiste là-dessus, on ne va pas abîmer notre terre battue, par exemple. On va être très rigoureux sur le maintien de ça, mais on va faire vivre ce stade sur le plan culturel, artistique, événementiel et aussi l'ouvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de la compétition amateur.
Didier Durand, je reviens vers vous. Vous êtes le directeur général de Supersol. La terre battue qu'on a là, sous nos yeux, sur les stades, les terrains de Roland-Garros, c'est la même que celle de 1948 ?
Rien n'a changé.
Rien n'a changé.
C'est vrai ? Rien n'a changé du tout.
Non. Et c'est ça, ce savoir-faire français, et dont nous sommes si fiers.
La tradition.
La tradition française. Merci à vous, Didier Durand. Vous êtes le directeur général de Supersol. Merci d'être venu dans La France Bouge.
Et Amélie Oudéa Castera, la directrice générale de la Fédération française de tennis. On vous garde encore avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1.
13h28 sur Europe 1. À l'origine, le fondateur de l'entreprise dont nous allons vous parler voulait créer des raquettes pour les enfants. C'était il y a 42 ans.
Alors, ils en produisent des raquettes. Ils font aussi maintenant des filets pour les cours de tennis, des balles de tennis. Ça s'appelle Technifib. Et ouais, et c'est français. Ce sera notre saga du jour. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. On a le plaisir avec Elisabeth de vous retrouver ici depuis Roland-Garros. Et ça va être le cas comme ça pendant plusieurs jours durant cette quinzaine. Et on est toujours avec notre invitée exceptionnelle, Amélie Oudéa Castera, qui est la directrice générale de la Fédération de tennis française. Alors on le disait, il y a eu beaucoup d'investissements ici ces dernières années. On est passé de 8 à 12 hectares. On a maintenant un toit sur le Philippe Châtrier. On a un nouveau court qui s'appelle le Simone Mathieu. On est donc à peu près arrivé au niveau des plus grands tournois pour les tournois du Grand Chelem. Mais vous allez continuer à investir. Il paraît qu'il va y avoir bientôt un deuxième toit à Roland-Garros. C'est en tout cas votre souhait ?
Oui, absolument. On aura un toit sur le Laing Glen qui sera prêt au 1er décembre 2023.
D'accord.
Donc, plein de toits à venir comme ça, au fur et à mesure.
Non, là, c'est le deuxième. Si on a deux cours centraux, l'un qui a la capacité du Châtrier avec 15 000 places et celui du Laing Glen qui est autour de 1000, on aura une super belle capacité.
Une belle capacité. Alors, l'autre grosse nouveauté cette année à Roland-Garros, Amélie Oudéa Castera, c'est que Roland-Garros propose des matchs de nuit. Vous rentrez, on peut le dire, dans les standards de l'US Open. Ça y est, on peut le dire que vous êtes dans la cour des grands désormais. Parce que le match de nuit, c'était...
Je crois qu'on peut le dire.
Hein, ça y est.
Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir du public à ces sessions de soirée. Là, on a entre guillemets la malchance cette année que 9 de nos 10 sessions de soirée se tiennent à huis clos.
Le 9 juin,
du couvre-feu 21.
Il y aura une soirée exceptionnelle en direct sur Europe 1.
Pour nous, ce sera quand même un très, très grand moment. Encore plus historique que cette première session de soirée vécue avec Serena Williams lundi soir. Puisque là, on aura enfin à peu près 5000 personnes du public pour suivre ce moment incroyable dans l'histoire du tournoi.
C'est ça, historique.
C'est historique et c'est capital pour vos finances parce qu'on vide le stade et puis on re-remplit avec une autre billetterie à ce moment-là. C'est ça aussi l'intérêt. C'est du business, il faut bien le reconnaître.
Il faut le reconnaître et c'est pas mal.
Mais c'est pas honteux, au contraire. Vous avez raison.
Plus le sport français peut compter sur des organisations où il y a comme ça cette faculté à générer des ressources propres, le moins il est dépendant d'aides publiques et le mieux on se porte collectivement.
Donc on n'est pas dépendant des aides publiques, mais vous avez vendu les droits à Amazon Prime. Pourquoi Amazon ?
Alors vous savez, on a fait un appel d'offres en bonne et due forme pour ces années 21, 22 et 23 en termes de retransmission. Et puis le cahier des charges, il a été structuré de trois façons possibles. Il y avait la possibilité d'avoir l'ensemble du lot, et puis il y avait une autre formule où il y avait le cours Simone Mathieu d'un côté avec les sessions de soirée, et puis l'ensemble du package avec le Châtrier et le Laing Glen de l'autre. Et puis les choses ont fait que France Télévisions a remporté l'appel d'offres sur la partie Châtrier, Laing Glen et l'ensemble des cours annexes. Et puis c'est Amazon qui a été le mieux offrant avec une belle offre concernant le Simone Mathieu et les sessions de soirée. Donc voilà, pour nous, c'est, on le dit d'autant plus librement que c'est la précédente équipe qui l'avait négocié. C'est quelque chose qui est positif pour le tournoi de Roland-Garros.
On payait cher.
Alors, je ne peux pas communiquer sur les montants de tout ça. Ce que je peux simplement vous indiquer, c'est que les droits médias de Roland-Garros ont été significativement améliorés par rapport au précédent cycle. C'est une amélioration qui est presque d'un quart, donc c'est significatif.
Alors, parmi les énormes déceptions, la faiblesse des tennisman et tenniswoman français et françaises. Sur les 18 Français engagés au premier tour, il en reste 3. Pire résultat depuis le début de l'ère Open en 68. Qu'est-ce que vous avez raté, vous et vos prédécesseurs à la Fédération, pour rater une génération de tennisman ?
C'est dur le mot rater, parce qu'on peut, avoir un tournoi difficile. Mais je veux dire, moi je pense à des joueurs comme Hugo Humbert, je pense à des jeunes espoirs montants comme Arthur Hinderknecht, Arthur Cazot. Ils n'ont pas gagné ici, mais ils sont quand même super prometteurs. Un Manarino qui fait une très belle très beau parcours, très belle progression toutes ces dernières années.
Bon, lui, il n'aime pas la terre battue.
Pas être trop négatif. Voilà, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à leur juste mesure.
Mais c'est vrai qu'on a eu l'habitude.
Et continuer à encourager nos joueurs qui
ont un mérite incroyable. On a eu l'habitude d'avoir des champions sans remonter très loin.
Alors, maintenant,
nos garçons. Où est la relève ? Alors, prenons-le en positif. Où est la relève ?
Écoutez, chez les filles, on a, après Fiona Ferro, on a une jeune génération avec une Elsa Jacquemot, avec une Clara Burel. On a, je pense vraiment, une très jolie génération montante qui est capable de très, très bien jouer. Fiona Ferro nous l'a montré lors de l'édition 2020. Donc, c'est vraiment des très belles joueuses qui ont tout dans leur bagage et il faut qu'on arrive à ce qu'elles prennent confiance en elles, peut-être en les exposant un peu davantage à des femmes comme Marie Pierce, Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, qui ont gagné un grand chelem et qui peuvent leur partager un petit peu ces recettes et cette confiance en elles, oui, pour se dire que c'est un Graal qui est atteignable. Oui. Et puis, chez les hommes, j'évoquais Cazaux, Rinderknecht, il y en a d'autres. On a un nouveau DTN Nicolas Escudé, qui est équipé d'un nouveau patron du haut niveau, Paul-Henri Mathieu. On a envie vraiment de faire progresser les choses en s'appuyant aussi sur l'expérience de nos anciens qui peuvent transmettre.
Mais oui,
une
justement,
très utile.
Vous parlez de transmission, Amélie Oudéa-Castéra. C'est capital d'avoir des champions pour doper l'attractivité du tennis français parce que le nombre, on le voit chaque année, le nombre de licenciés depuis 30 ans ne cesse de baisser. Donc comment rendre aujourd'hui le tennis plus accessible et peut-être qu'il fasse davantage rêver. Comment faire ?
Je pense que c'est une très vaste question qu'on a décidé de ne pas éluder. Il y a en effet une érosion du nombre de licenciés depuis 30 ans. Elle est particulièrement marquée sur les 10 dernières années après s'être un petit peu améliorée. Mais si on prend le truc sur longue période en 30 ans, on a perdu à peu près 30% des licenciés. Ils étaient d'environ 1,4 million. Aujourd'hui, on est à 970 000. Bon, on ne peut pas se satisfaire de ça, d'autant que la situation n'est pas la même pour un grand nombre d'autres fédérations, notamment olympiques.
Alors, comment vous
finalement, les autres fédérations ont bien tiré leur épingle du jeu et ont réussi à faire grimper leur base de licenciés. Donc, pas de fatalité. Nous, on a d'abord un premier projet qui est de remettre beaucoup plus de convivialité dans les clubs, en leur fournissant les bons apports sur des solutions de parrainage, etc. On a la volonté d'envoyer nos ambassadeurs, ces très très bons joueurs, sur le terrain pour qu'ils puissent incarner le tennis de haut niveau et faire rêver sur le terrain, auprès des jeunes, dans les écoles de tennis, parler aux parents, aux enseignants.
Et dans les écoles, pourquoi pas ?
Dans les écoles, absolument. On a aussi la nécessité de mener une réflexion sur les formats de jeu. Accueillir bien davantage des disciplines nouvelles qui ont un potentiel ludique très important. Je pense évidemment au padel qui est important pour nous, mais aussi, pourquoi pas, une évolution des formats de jeu. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont testées, vous savez, au niveau de la compétition de l'ATP très connue, la Next Gen.
C'est-à-dire, par exemple, on pourrait ne plus jouer en 2-7 gagnants et tout ça,
on pourrait faire des trucs plus rapides. On peut imaginer qu'il y ait des choses qui soient en temps limité, on peut imaginer qu'il y ait des choses qui soient avec une seule balle de service, que le let au service, il compte bon. On peut imaginer des choses qui permettraient d'accélérer un petit peu le jeu et de le rendre probablement un petit peu plus ludique encore.
Donc on va révolutionner un petit peu le tennis dans le...
Révolutionner, non, puis vous savez que c'est des choses, ça, sur les règles de jeu qui se font avec la Fédération internationale de tennis, et donc forcément en concertation, et qui dit gouvernance internationale dit nécessairement un petit peu de temps. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, nous, à notre niveau, autour des pistes que j'évoquais tout à l'heure, et je pense que le point pivot, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des présidents de clubs de France
pour pouvoir avoir
trouver
un
leviers.
Un projet commun.
Et je crois là-dessus que peut-être le contexte de crise sanitaire et la sortie de la crise va nous aider, parce que tout le monde a envie de resocialisation.
Tout le monde a envie de resocialisation. Chaque jour dans La France Bouge, Amélie Oudéa-Castéra, on se pose et on découvre l'histoire d'une entreprise, d'un endroit ou d'un produit qui font la fierté de notre pays. Donc après Super Sol tout à l'heure, on va découvrir l'histoire d'une entreprise française qui existe depuis 42 ans. Elle a été créée par un skieur, mais aussi tennisman. Et à l'origine, son idée à lui, c'était de créer des raquettes pour les enfants.
Oui, aujourd'hui, ils fournissent des tournois comme Marseille, Monaco, Miami, ils habillent et ils aident le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev. Alors c'est Technifibre et c'est notre saga du jour racontée par notre semi-tennisman à nous, Quentin Paillet.
Europe 1, la France bouge, la saga.
En 1979, Björn Borg remporte Roland Garros en battant Victor Pecci. C'est aussi cette année-là qu'est créée Technifibre. Tout commence avec les raquettes de tennis pour les enfants. Thierry Messant est skieur, mais aussi un peu tennisman et surtout entrepreneur. Et il constate qu'il n'y a pas de raquettes pour les enfants. Nicolas Préau, directeur général de Technifibre.
Et il a tout de suite compris qu'il y avait un truc à faire dans le tennis. Et c'est la raison pour laquelle il a créé cette première raquette enfant et la société Technifibre. Et depuis, Technifibre est devenue une marque de référence dans le domaine du tennis, dans le domaine du squash et dans le domaine du paddle plus récemment. Et c'est une société qui s'est développée tout au long de ces années.
Rapidement, Technifibre développe de nouveaux produits, des raquettes pour les adultes évidemment, des balles de tennis, mais aussi des filets pour les cours. Et depuis plus de 40 ans, l'entreprise ne cesse d'innover.
Au début, c'était des raquettes en bois. Aujourd'hui, ce sont des raquettes avec des matériaux extrêmement évolués. Donc nous, on a de cesse d'innover. Pour innover, on base notre réflexion d'abord sur la compréhension des joueurs. Et puis ensuite, il y a tout un travail d'ingénierie qui est fait avec des études en laboratoire. Rapidement, on fait valider ces études sur le terrain par des joueurs. Et donc, on apporte régulièrement des innovations. On va amener d'ailleurs dans les prochaines semaines, les prochains mois, des innovations de rupture à la fois sur la raquette de tennis, sur la raquette de squash et sur la raquette de paddle.
Le sponsoring de joueurs est aussi très important chez Technifibre, comme avec Daniil Medvedev. Quand l'entreprise signe un contrat avec le joueur russe, il est classé plus de 300e au classement ATP. Aujourd'hui, il est numéro 2 mondial.
C'est un gros travail de détection. Et nous, chez Technifibre, on a un savoir-faire qui est très important sur le sujet. On a des personnes qui sont dédiées à ce domaine et qui font le tour des clubs, des académies, des tournois de tennis. Notre volonté, c'est de détecter des jeunes talents quand ils sont très jeunes, entre 10 et 14 ans. Et puis ensuite, on va les accompagner jusqu'au plus haut niveau et idéalement pour qu'ils deviennent des champions. On peut prendre aussi le cas d'un jeune joueur de 16 ans qui est un joueur français qui s'appelle Antoine Guibaudot. On collabore avec lui depuis son plus jeune âge et on va l'aider en lui apportant le meilleur produit possible à atteindre ses objectifs sportifs.
L'entreprise est partenaire de plusieurs tournois comme ceux de Marseille, Monaco ou encore Miami. Technifibre est très vite devenue une marque internationale. Aujourd'hui, 70% de sa production est exportée dans plus de 70 pays.
Et c'était donc la saga du jour racontée par Quentin Payet, notre invité toujours Amélie Oudéa-Castera, la directrice générale de la Fédération française de tennis. Une petite question purement sportive. Naomi Osaka, l'une des meilleures joueuses au monde, a abandonné le tournoi, a refusé d'y participer parce que les instances internationales, pas Roland-Garros, mais les instances internationales obligent à ce que les joueurs fassent des conférences de presse à l'issue de chacun de leurs matchs. Elle a mis en avant sa santé mentale. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
D'abord qu'on espère vraiment la revoir l'an prochain. On espère qu'elle va se rétablir vite. Elle semble vraiment affectée. Que c'est une grande championne. Et qu'en même temps, nous, la communauté des Grands Chelems, nous étions dans notre devoir de bien lui expliquer les conséquences auxquelles elle s'exposait si elle confirmait cette volonté indiquée dès le mercredi soir et ensuite mise en œuvre au premier tour de ne pas se conformer à son obligation médiatique. Tous les joueurs s'y conforment. Nous, on est là pour être le gardien du temple sur les règles. On est aussi là pour veiller à ce qu'il y ait une équité entre les joueurs. Et on est enfin là pour aussi faire en sorte que l'écosystème autour de notre sport, dont les médias et les journalistes sont une partie prenante tout à fait importante, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. On a vraiment essayé de beaucoup parler avec Naomi. C'était difficile pour elle. Et je crois que compte tenu de ce qu'elle a expliqué dans sa plus récente communication, elle a pris la bonne décision pour elle. Et en tout cas, nous la respectons. Nous lui souhaitons vraiment un super prompt rétablissement.
Eh bien, on espère effectivement qu'on la retrouvera ici l'année prochaine à Roland-Garros. Bah, tiens, avant d'en arriver à l'année prochaine, si vous voulez remporter des places pour la finale homme ou dame, vous le savez, on est en direct de Roland-Garros, Europe 1 Radio officiel. Qu'est-ce qu'il faut faire, Elisabeth ?
Il faut d'abord tenter sa chance, parce que sinon, vous n'allez pas gagner. Mais tiens, on fait comment, Emmanuel, pour gagner des places ?
Alors, il vous suffit d'envoyer le mot « tennis » par SMS. On fait ça au 739-21.
Allez, bonne chance. On vous attend tous à Roland-Garros. Hein, et surtout, tentez votre chance, c'est très important.
Tennis au 739-21.
75 centimes plus coût d'un SMS. Deux SMS
par jour.
Amélie Oudéa-Castera, vous êtes la directrice générale de la Fédération française de tennis. Vous êtes notre grand témoin du jour. Vous restez encore un petit peu avec nous. C'est jusqu'à 14h.
Et au moment où Alexander Zverev vient tout juste de se qualifier, il est 13h45.
Direction les trophées Europe 1, la France bouge. Quelle est la pépite de demain ? On va la découvrir aujourd'hui avec Bibi.
Oui, alors ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à se cultiver, à choisir son programme culturel. On va tout savoir dans un instant. Elle bouge et elle est toujours en direct de Roland-Garros pour les trophées Europe 1. La France bouge avec notre grande témoin du jour, Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération de tennis, et notre fée, Nathalie Carré, de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et encore une bonne idée dans La France bouge, aujourd'hui lancée il y a à peine quelques semaines. Hein, c'est la crise sanitaire, ce sont les confinements qui ont donné envie à cet entrepreneur de se lancer. Bonjour Ophélie Baribeau.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Merci à vous, vous avez 26 ans, vous êtes la cofondatrice de Bibi. C'est une application qui permet de découvrir tous les événements, tous les points culturels qui se trouvent autour de nous. Vous allez tout nous raconter pendant votre pitch. Vous avez une minute.
Alors, j'imagine qu'une grande partie des auditeurs connaît bien le Louvre ou l'Opéra de Paris, mais il faut savoir qu'à Paris, il y a 206 musées et des centaines de représentations tous les soirs qui restent, elles, complètement inconnues aux yeux du grand public. Et c'est la même chose dans plein d'autres villes en France, il faut le rappeler aussi. Et il y a une raison à cela, notamment, c'est que il est très difficile d'avoir une vision large de toute l'offre culturelle qui nous entoure. Et nous, ce qu'on veut faire avec Bibi, c'est remédier à ça, en vous redonnant la visibilité sur tous ces événements-là et en vous permettant de choisir. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir tous les événements de façon unifiée, et de les trier selon les critères qui vous intéressent vraiment. Alors ces critères, ça peut être la localisation, ça peut être le type d'événement, ça peut être un artiste, mais aussi, il faut savoir que c'est un réseau social, c'est-à-dire que vous pouvez définir si vous voulez qu'un ami soit intéressé pour que vous puissiez, par exemple, y aller ensemble, ou alors si vous souhaitez partager vos pratiques. Donc voilà.
Moi je dois vous arrêter, je suis le bad cop, désolé. Bravo en tout cas Ophélie pour tout cela. L'application est gratuite, hein, c'est un point important à mettre en avant. Et un petit point, je trouve, dans votre parcours, ce qui est passionnant, c'est que vous avez toute seule appris à coder. Vous êtes inscrite à l'école 42 qu'on avait eu la chance de recevoir à ce même micro il y a de cela quelques semaines. Et vous avez eu cette idée et du coup vous avez appris pour pouvoir vous débrouiller toute seule dans cet esprit entrepreneurial. Donc chapeau et bravo à vous pour ça.
Oui, bravo à vous Ophélie. Je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Ophélie, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors vous avez testé, vous avez analysé le projet d'Ophélie. Bibi, quelles sont les forces et les faiblesses selon vous ?
Alors effectivement, les forces, l'information existe, hein, mais elle est dispersée sur plusieurs sites, donc il y a un vrai sujet de compilation de la donnée. Et puis les forces, c'est la géolocalisation qui permet de choisir un événement autour de chez soi comme à la sortie du travail. Et puis bravo pour la diversité des activités proposées. Alors pour améliorer, mais plutôt une suggestion, en fait, votre site s'adresse aux personnes qui ont envie de faire un truc, mais sans nécessairement savoir quelle activité. Donc peut-être que vous pourriez proposer des critères de recherche qui seraient plutôt, alors quand faire l'activité, vous le proposez, ou et peut-être en distance ou en nombre de stations par rapport à un point. Dans quel contexte ? On ne fait pas pareil si on a des enfants bas âge, des ados, si on est avec son amoureux, etc. Aussi peut-être la durée de l'activité et le budget par personne, avec ensuite la possibilité d'affiner par type d'activité. La difficulté dans votre application, c'est vraiment de s'adapter au mieux aux comportements qui sont très variés des utilisateurs en fonction du moment de la journée et du contexte dans lequel ils se trouvent.
Merci Nathalie. Donc c'est intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Il faut en fait personnaliser le plus possible votre offre finalement.
C'est ça, tout à fait. C'est vraiment notre objectif de créer un jeu de données qui est vraiment extrêmement précis et qui nous permet toujours de faire des suggestions plus intelligentes selon les goûts ou le caractère particulier de chaque personne. On commence même à se poser des questions en termes d'accessibilité, pouvoir indiquer aux personnes en situation de handicap, par exemple, si le musée est accessible ou pas. Il y a beaucoup de choses à rajouter, même sur les jeux de données qui existent actuellement, pour que Bibi devienne aussi encore plus intéressant en termes d'information. Et c'est sur quoi on travaille en ce moment.
Pourquoi Bibi ?
Pourquoi Bibi ? J'étais sûre que vous allez me poser cette question.
Ah ben voilà, dans le mille.
Alors, déjà parce qu'on le retient très facilement.
C'est vrai, ça marche.
C'est universel.
Et la deuxième raison, c'est parce qu'on veut casser l'image un peu élitiste qu'a la culture. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Bibi, d'avoir un petit chien en logo, qui est littéralement le compagnon de nos sorties culturelles. Voilà, on a décidé de prendre un peu le contre-coup de tout ce qui
était déjà. C'est pas évident, on pense pas forcément à la culture.
Voilà, donc ça marche plutôt bien, on voit que
400
beaucoup...
400 personnes déjà, bravo à
ça
vous.
Ça intéresse à la marque. Donc.
Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération française de tennis, vous en pensez quoi puisque vous avez un gros parcours
entreprise. Moi, je viens du digital, moi j'adore. Déjà, voir une femme dans la tech, j'adore. Et quand en plus elle explique qu'elle se forme pour coder elle-même, c'est encore mieux, bravo.
Merci beaucoup.
Bravo en tout cas pour ce soutien et bravo à vous, Ophélie, pour ce très joli projet. Si vous aussi, vous voulez comme ça venir présenter votre entreprise, ben, il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Amélie Oudéa-Castéra, vous êtes la directrice générale de la Fédération française de tennis. Vous restez encore avec nous juste quelques minutes suite et fin de votre émission.
Europe 1. Allez, au fond du cours Europe 1, 13h52.
Dans un instant, demain, un emploi. Oui, la France bouge et Europe 1 soutiennent et accompagnent les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en ce moment.
1500 postes pour vous aujourd'hui. Oussin, allez, réponse dans quelques secondes. Ça passe toujours trop vite et peut-être encore plus quand on a la chance d'être en direct de Roland-Garros, toujours avec notre grande témoin du jour, Amélie Oudéa-Castéra, qui est la directrice générale de la Fédération française de tennis.
Et chaque mercredi, nous accompagnons les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi avec, évidemment, des offres à la clé. Bonjour Brice Alzon.
Bonjour à vous.
Vous êtes le PDG de Coviva. Coviva est une entreprise qui existe depuis 2004 et vous êtes spécialisé dans le maintien à domicile des personnes âgées. Vous faites aussi la livraison de repas pour les personnes âgées. Et vous avez 15 agences en France. Et là, si vous êtes en direct dans La France Bouge, c'est parce que vous avez 1500 postes de libres et de disponibles.
Oui, exactement. En fait, sur le réseau d'Encoviva, nous avons un besoin très important de recrutement sur tout ce qui est assistante de devis, aide à domicile, dans beaucoup de villes de nos régions, en passant de Lille jusqu'à Pau, jusqu'en Lorraine. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, on a énormément de mal à trouver des personnes donc qualifiées et diplômés sur les métiers qui nous concernent en maintien à domicile.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que vous avez d'autant plus besoin de recruter, c'est parce qu'il va y avoir une réforme du crédit d'impôt. Maintenant, on va avoir notre crédit d'impôt tout de suite dès que l'on embauche une nounou ou ce genre de personnes qui nous aident beaucoup au quotidien. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'accélérer votre recrutement, notamment. Parce que vous pensez que
oui,
ça va créer de la demande.
Oui, exactement. Nous, effectivement, il y a une double croissance et qu'il y a la croissance sur le maintien à domicile grâce donc aux papis et boomers qui commencent à rentrer donc en dépendance. Donc, on va avoir une forte croissance de 2020 à 2030 de façon régulière. Et en plus, effectivement, la réglementation a changé. En gros, dans les services à la personne, aujourd'hui, vous payez par exemple une prestation de ménage à 24 € de l'heure et vous avez un crédit d'impôt l'année suivante qui est déduit de votre impôt sur le revenu. À partir de janvier de l'année prochaine, vous ne paierez directement que 12 € sur ces.
Et ça va du coup doper exactement particulièrement et votre ça, marché, ce qui fait que voilà, vous recherchez tous ces profils et notamment des jeunes sortis d'école pour venir.
Voilà. Et s'ils ont le permis, c'est encore mieux. Hein. 1500 postes à pourvoir. Merci à vous, Brice Alzon. Toutes ces offres sont à retrouver évidemment sur la carte interactive par région sur europe1.fr. Amélie Oudéa-Castéra, vous recrutez à la Fédération française de tennis. Nous, on a été frappés par le nombre de saisonniers. Quand on arrive ici, il y a une personne qui nous dit bonjour, bienvenue, comment ça va?
Ben, je suis très très heureuse
d'entendre
ça.
C'est vrai, il faut le dire. Ah non, mais c'est incroyable.
En temps normal, travailler à la fédération, 400 personnes en CDI et à peu près 70 CDD. Et c'est vrai que pendant le tournoi, on déploie une organisation spécifique avec notre partenaire Adeco où on embauche à peu près 1000 intérimaires et puis environ une petite centaine de CDD en plus qui viennent soutenir l'organisation pendant les 3 semaines du tournoi.
Eh bien, formidable. Merci beaucoup à vous, Amélie Oudéa-Castéra. Vous êtes la directrice générale de la Fédération de tennis. Merci de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup à vous.
Et merci à vous. À demain, Emmanuel. Demain, nous allons changer de corps.
On change complètement.
On sera
avec le patron de Gérard Darrel demain.
Allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondat.